Midi 40, Antonine Iacarini est en studio. Antonine, j'ai une confidence à te faire.
Quoi?
J'ai rêvé à toi en fin de semaine.
Avec la toune de Motley Crue,
je sais
on
pas
que c'est
bizarre là-dedans.
Est-ce que vous le dites?
Tu peux
des
pas
fois,
arrêter ça là.
Est-ce que vous le dites aux gens à qui vous rêvez?
Ben ouais, mais pas quand c'est louche.
Quand c'est louche, tu le dis pas. Tu
puis mettons
pour toi.
Quand puis je fais pas ça. Hey Annick, j'ai rêvé à toi en fin de semaine. Et arrêter ça là.
Ouais. Pourquoi?
Parce que ça devient louche.
Ça devient louche.
Ben en ondes surtout en plus, il y a beaucoup de choses là-dedans.
Ouais.
Moi, je suis de l'école qui a raconté ses rêves. Là tantôt. Avant d'entrer en onde, tu m'as raconté. Là.
Ah,
alors,
toi,
je prise
faire
le
du
punch.
Cinéma, hein, ça serait pas
non,
ta
non,
force.
Non, non,
non. Tu vends le punch de la fin.
Je vends le punch, puis c'est bien correct. Puis j'étais contente que tu me le racontes. Mais 9 fois sur 10, quand quelqu'un me raconte un rêve, je suis comme, OK, merci.
À part quand ça brasse, hein?
Non,
à part quand
c'est soit...
invasion de maison, puis
ouais,
là, ouais.
Ouais,
non, ça, t'aimes
ça. Faut que
ça
soit hot, là. Ouais. Mais sinon, souvent, je sais pas quoi répondre.
Mais pour la petite histoire, je dormais, puis là, je rêvais que j'étais dans mon salon, puis on t'écoutait à télé. Je sais pas si t'étais à nouveau, mais je pense que t'étais à nouveau. Puis mon gars, il était à côté de moi, puis il attendait que je finisse d'écouter les nouvelles pour pouvoir écouter ses affaires. Puis il disait, papa, c'est long, papa, c'est long. Puis il disait, mais pourquoi tu l'écoutes, elle? Je dis, ben parce que j'y jase, c'est ma collaboratrice. Puis la télé qui est accrochée sur le mur, sac le camp à terre, puis la télé pète. Et là, mon gars est en furie après toi.
Maudit.
Parce que tu parlais dans sa télé.
Ben oui, il est fâché.
Ouais.
T'as brisé sa télé.
Un fans de moins.
Là, on va pas passer une heure à parler de rêves, là, parce que je viens de dire que ça intéresse pas le monde quand on raconte nos rêves. Mais est-ce que vous autres, quand vous regardez quelque chose dans votre rêve, automatiquement, soit il casse ou soit il tombe? Moi, mettons qu'il y a un avion qui passe dans le ciel, puis je
attends.
Le regarde, il tombe.
Ah, c'est non.
Comme, non, OK.
Non.
C'est juste moi.
OK.
Non.
Moi, quelqu'un peut interpréter les rêves à la maison puis qui souhaite nous envoyer toujours interprétation.
Il y a pas une série de films là, qui s'est fait dans les dernières années où les gens ils rêvent à quelque chose puis après ça ça se produit dans la réalité.
Ça doit être un film d'horreur puis moi j'écoute
oui,
pas ça.
Oui, c'est ça.
Je peux pas t'aider.
Mais tu sais, la fille qui commence à paniquer, non, je prendrai pas cet avion-là, non, je prendrai pas cet avion-là.
Ah, mais ça, c'est Destination Ultime.
Destination Ultime, mais c'est
ben
ça,
oui.
Toi, tu rêves à Destination
moi,
Ultime.
Moi, je vis dans Destination Ultime. Quand je roule sur l'autoroute puis qu'il y a un camion, tu sais, avec des gros billots de
ouais.
Bois, là,
ouais.
je reste pas en arrière du camion. Ceux qui ont vu le film vont comprendre.
Voilà. Hey, on était hier avec la gang d'Éric Duhem dans Arthabasca. C'était son annonce comme quoi il allait être candidat dans Arthabasca. Je pense que c'est un bel endroit pour être élu. Est-ce que toi aussi, tu crois qu'Éric Duhem pourrait être élu dans Arthabasca?
Bien, c'est un terreau fertile.
Ouais.
Il faut rappeler qu'au niveau fédéral, ce sont des députés conservateurs. C'était Alain Raïs, là, c'est Éric Lefebvre, ancien député de la CAQ, par exemple, qui n'était pas un député du Parti conservateur qui a été élu récemment sous la bannière conservatrice fédérale. Donc, c'est un beau comté pour Éric Duhem.
Ouais.
Moi, je me disais, il faut qu'il aille là, dans ce comté-là. C'est sûr qu'il n'habite pas nécessairement là, mais les chefs de parti, je pense que les gens ont une tolérance pour ne pas se présenter chez soi. Là. T'sais, dans le fond, on veut un comté qui
ou
est
prendre
prenable.
Le comté de quelqu'un ou
ouais,
après élection.
Comme Pierre Poilievre. Donc, non, je pense que c'est un bon comté pour lui. Par contre, c'est pas gagné. Hein. C'est quand même un bon défi. Si on regarde les projections sur Québec 125, CAQ, PQ et PCQ sont à égalité statistique. Donc, c'est pas fait. Le PQ a aucunement l'intention de laisser la voie libre à Éric Duhem malgré la demande d'Éric Duhem qui demandait aux autres partis de le laisser faire son entrée à l'Assemblée nationale. Pour la CAQ, on ne le sait pas encore. Je me disais, si j'étais dans la chaise de François Legault, qu'est-ce que je ferais? Parce que c'est pas perdu là, pour la CAQ, ce comté-là. Là. C'est pas comme, par exemple, dans Terrebonne ou la dernière élection partielle où vraiment ça regardait très, très mal. Peut-être qu'il y aurait une chance. Donc, pourquoi tu laisserais la voie libre à un
mais ce serait pas une défaite de plus pour François Legault dans cette circonscription-là?
C'est le risque. Parce que, est-ce que François Legault a besoin d'un autre député? Non. Est-ce que François Legault a besoin d'une autre défaite pendant une élection partielle? Non plus. Donc, tu mets tout ça dans la balance puis tu te dis, bon, ben écoute, on laisse-tu rentrer Éric Duhem à l'Assemblée nationale? Mais ça veut dire un député de plus, un chef de parti de plus qui va lui poser des questions.
Puis il n'y a rien à voir avec les deux, trois autres partis qui sont en place. C'est plus de droite économique. Est-ce que François Legault veut un gars de droite économique alors que le déficit est épouvantable depuis des années, depuis sa gouverne?
Bien, en ce moment, c'est pas facile au niveau économique là, pour Legault. On vient d'avoir aussi la décote du Québec. Donc, de faire rentrer un chef de parti partie qui va questionner. Parce que, dans le fond, à la période de questions, il faut rappeler que ce sont les chefs, quand ils se lèvent pour poser une question, c'est le premier ministre qui répond. Alors que si c'est un autre député, ben c'est les ministres qui répondent. Donc, François Legault lui-même va devoir répondre à Éric Duhaime.
Ça serait quand même intéressant de voir ça comme dynamique quand même à l'Assemblée nationale.
C'est intéressant,
nationale,
mais pour François Legault, je vois, t'sais, y a pas vraiment d'intérêt de s'en rajouter.
Non.
Puis l'autre affaire avec Éric Duhaime qui ferait son entrée à l'Assemblée nationale, c'est que le PCQ brise des consensus. Mm-hmm. C'est un des partis qui prend des positions les plus loin des autres partis politiques.
Ouais.
Donc, honnêtement, il y a une réflexion à avoir pour François Legault. Mais moi, je pense que pour la démocratie, ce serait bien qu'Éric Duhaime fasse son entrée. Mais dans la vraie vie, en politique, tu n'as pas à quémander ta place. Il faut que tu la gagnes. On a un système électoral qui fait en sorte que même s'il y avait pas mal de gens qui ont voté conservateur, hein, plus de 500 000 électeurs ont voté pour le PCQ à la dernière campagne électorale, ça lui a donné un grand total de 0 député. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans aussi. Donc, on verra bien qu'est-ce que ça va donner dans Arthabasca. Moi, j'ai juste hâte de voir la réponse de la CAQ parce qu'on s'entend que les libéraux ont peu de chances de gagner cette circonscription.
C'est quoi les points forts et les points faibles du Parti conservateur du Québec?
Mon Dieu, en général?
Oui.
Ben, écoute,
parce que je trouve, si je vais essayer de t'aiguiller peut-être un peu là, puis de te donner mon point de vue, je trouve qu'Éric Duhaime, dans les derniers mois, était plus présent sur les enjeux plutôt que sur les histoires de drag queens, ce qui séparait les gens. Là.
Ouais.
Les gros débats qui séparaient les gens, le Parti conservateur était constamment là-dessus, alors que la majorité des gens au day-to-day n'étaient pas nécessairement touchés par ça. Mais là, on dirait que c'est comme, ils se sont comme un peu plus centralisés, puis ils ont décidé de se concentrer sur 2-3 affaires, puis ça semble être, en tout cas, de mon côté, c'est une belle amélioration.
Mais la tentation pour Duhaime, c'était de sortir sur n'importe quel sujet
exact.
Qui pouvait y donner un petit peu d'attention. Parce que quand t'es pas élu à l'Assemblée nationale, c'est vraiment difficile d'avoir de l'attention. Mm-hmm. Les journalistes parlementaires sont dans les corridors de l'Assemblée.
C'est-tu à
questions.
N'importe quel prix, tu sais, parce que ben, lui, ça l'a handicapé quand même politiquement. Une partie de la population trouvait ça insipide, là, d'aller sur ces
c'est
enjeux-là.
C'est ça. Le risque, c'est de s'éparpiller. Sauf que c'est sûr que si tu te dis « OK, moi, je m'en tiens à 3 enjeux », ben là, tu t'enlèves des occasions quand même de rayonnement. Donc, c'est vraiment ça le choix qu'il y avait à faire. Récemment,
ouais.
On a senti que c'est recentré sur certains enjeux.
Moi,
je pense que c'est payant.
Les questions économiques, la gouvernance de l'État.
Oui, puis surtout maintenant qu'il se présente dans une élection partielle, je pense que ça va payer parce qu'il va l'avoir de toute façon, le rayonnement. Il y a une histoire en arrière de ça qui est intéressante. Les médias vont embarquer, évidemment. Là. C'est une histoire qui est intéressante, c'est nouveau, il y a un enjeu. L'élection partielle dans Arthabasca, là, les histoires qui s'affrontent, c'est les suivantes. C'est qu'on a d'un côté le PQ qui veut montrer qu'il est capable de garder son momentum. Parce qu'on le disait, c'est long là, jusqu'à l'élection 2026, être premier dans les sondages aussi loin d'une élection, alors qu'il y a une course à la chefferie au Parti libéral, alors que bon, il y a le Parti conservateur qui veut prendre sa place,
ouais.
etc. Donc, le PQ, l'enjeu est énorme parce qu'on veut montrer qu'on continue de garder ce momentum-là. Et le comté est prenable pour eux. Donc, s'ils perdent, ça va être un coup dur pour le PQ. Pour la CAQ, ben, on en a parlé il y a quelques instants, l'enjeu est important aussi, parce que sinon, c'est encore une perte pour la CAQ qui ne fait que perdre des plumes depuis 2022. Puis pour Éric Duhaime, ben, c'est l'occasion en or. Donc,
parce
cette
qu'il
représente
quand même 500 000 personnes au
ben
Québec.
Oui,
là. C'est majeur. Puis il devrait avoir une voix pour le Parti conservateur à l'Assemblée nationale, mais ce sera aux gens d'Arthabasca
ben,
de décider.
C'est ça l'affaire. C'est qu'on ne peut pas dire aux gens d'Arthabasca, ben, si mettons ça les intéresse pas aux autres d'avoir les idées du Parti conservateur du Québec, la pression d'élire Éric Duhaime, ils peuvent bien voter pour qui ils veulent, mais c'est quand même un terreau qui est assez fertile quand on voit qu'on vote conservateur au fédéral.
Ouais.
Moi, je pense qu'il y a des bonnes chances.
Est-ce que pour le comté, de passer un peu à l'histoire, d'être le premier comté qui donne une chance à un chef conservateur d'aller à l'Assemblée nationale, ça pourrait peser dans la balance?
Je te dirais bof.
Non.
Parce que qu'est-ce que ça va leur donner d'avoir quelqu'un dans l'opposition? Oui, on va peut-être un peu plus parler des enjeux d'Arthabasca, mais Éric Duhaime, je suis sûre qu'il va, si jamais il devient député, il va pousser des enjeux d'Arthabasca, mais il va devoir, lui seul, parler des enjeux qui touchent le Parti conservateur en général. Donc,
mm-hmm.
de là avoir des fruits là, que les électeurs d'Arthabasca vont cueillir. Là, parce que je sais pas. Honnêtement, de te dire qu'il serait mieux servi par un Éric Duhaime que par un député du PQ ou par un député qui est au gouvernement, il y a des plus puis des moins pour chacun.
OK. Pour ce qui est de la course au Parti libéral du Québec, ça se passait en fin de semaine, le débat. Moi, depuis le premier jour, je dis que Charles Milliard, c'est un excellent candidat pour aller chercher le plus de circonscriptions possible à la grandeur du Québec. Je ne sais pas pour Montréal, mais du moins à la grandeur du Québec dans les régions. C'est le mien, c'est mon cheval. Et là, dans les derniers mois, il y en a un qui est arrivé, qui provenait du fédéral, Pablo Rodriguez, qui semble être énormément apprécié. Là. Est-ce que c'est un gars qui a un gros CV? Est-ce que c'est un gars qui va être un leader positif pour le Parti libéral du Québec? Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher les régions? C'est là où je bloque un peu. J'aimerais t'entendre à ce sujet-là, mais le problème de Milliard, c'est qu'il est tellement gentil.
Oui, il est gentil.
Il est tellement gentil. Il est propre.
Il est propret.
Aussi.
Il est très propret. C'est ton poulain?
Oui.
Et en fin de semaine, il ne t'a pas fait honte.
Non, hein.
OK, il était bon en débat, honnêtement. Ouais. C'était un bon communicateur.
Il est présent là, sur le terrain de façon assez importante. Là.
T'as 100 % raison.
Mais y a-tu la place pour un gentil comme chef de parti?
Ben, écoute, il y a quelques mois, mettons là, on repense au fédéral.
Ouais.
Mark Carney, il y a 6 mois, on aurait dit, voyons, il est trop plate, il est trop ci, il est trop ça. Puis à un moment donné, il y a un contexte qui fait que ça pogne ou ça pogne pas. Moi, je pense que oui. Je pense que, d'abord, sa pensée est vraiment approfondie à Charles Millard. Je l'ai écouté le débat, j'en ai écouté un des deux, vous m'excuserez, là, le deuxième, là, il a pris le bord, là. C'est plein des débats.
Il est sérieux dans son approche politique. Là.
Oui, puis c'est réfléchi, ses idées. On n'est pas dans des slogans. Tu vois qu'il a pensé à ça. C'est sûr qu'être à la tête d'une organisation économique nationale comme la Fédération des chambres de commerce, ça fait ça aussi. Ça fait des années qu'il parle à plein de monde dans toutes les régions, des entreprises. Mais il était très fort, je dois dire. Un Pablo Rodriguez, il nous servait beaucoup de slogan. OK? Puis, tu sais, c'est un débat de chefferie, là. C'est pas une publicité de 30 secondes qui passe à la TV.
Ouais. Il m'attendait à Samamad comme en ce moment au municipal, mettons.
Ah, je sais même pas si je peux le comparer à Samamad. Je trouvais ça très, très en surface. OK?
Oh, okay.
Puis, je trouvais pas que c'était un super communicateur non plus. Tu sais, même tant qu'à me livrer des slogans, je m'attendrais à ce que tu livres comme vraiment, vraiment bien. C'était ordinaire.
Il vous a fait un Mike chez Rona?
Non, en tout cas, si oui, j'ai manqué ce bout-là. Carl Blackburn, qui s'est ajouté récemment
dans la
course.
C'est une belle candidature.
C'est une bonne candidature, très appréciée de plein de libéraux. Il n'y a pas d'appui de député, puisqu'il est arrivé très tard, puis tout le monde s'était déjà un peu positionné. Mais lui aussi, sa pensée était pas mal plus approfondie que celle de Pablo Rodriguez. Lui aussi est à la tête d'une organisation économique nationale, le Conseil du patronat du Québec. Puis tu vois aussi là, qu'il avait quand même pris le temps de vraiment réfléchir à des enjeux puis à des solutions. Très solide en débat. Je dirais un peu moins habile en débat que Charles Millard au premier regard. Mais quand tu prends le temps de regarder sa stratégie, il prenait le temps de flatter les deux autres candidats dont on ne parle pas beaucoup, Mario Roy et Marc Bélanger.
Ouais.
Il réussissait à aller comme leur faire plaisir un peu en les ralliant à lui, parce qu'il aimerait ça peut-être avoir les votes de ces... parce qu'il y a des deuxièmes choix dans les courses à la chefferie. Puis s'il y a des justement, en cours de route, ben, il peut avoir un appui d'un de ces candidats-là qui a, disons-le, moins de chances d'emporter la course à la chefferie. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intelligent de sa part. On voit que c'est un fin stratège. Mais honnêtement, pour moi, le point le plus important de ce débat-là, c'est de voir à quel point Pablo Rodriguez surfe sur beaucoup sa notoriété. C'est un ancien ministre fédéral, on le connaît bien, mais il m'a pas impressionné.
Est-ce qu'on l'a attaqué un peu sur les finances canadiennes? Parce qu'il a fait partie du gouvernement de Justin Trudeau.
Oui, il y a eu un petit... premièrement, moi, je regarde toujours dans les débats de course à chefferie si ça se coltaille un peu ou bien si on se flatte là, les uns les autres.
Ouais.
C'était gentil comme débat, mais il y a eu là, une petite bine là, qui a été donnée à Pablo Rodriguez, effectivement, là, sur le bilan de Justin Trudeau.
Parce que le Parti libéral du Québec a toujours été reconnu pour l'économie.
Ben oui.
Puis le Parti fédéral qu'on a eu dans les dernières années, c'est une catastrophe au niveau de l'économie.
Ben c'est ça. Bien que Mark Carney ait réussi, lui, au fédéral, à se dégager du bilan de Justin Trudeau. Je ne suis pas certaine que Pablo Rodriguez va réussir à le faire, surtout dans le cadre d'une course à la chefferie.
T'expliques comment les appuis, mettons, de politiciens ferrés comme Marois Risky qui était tellement apprécié quand il était parti, la vague. Puis
ça, c'est un gros appui, là, en passant.
C'est énorme, là, on le voit.
C'est elle qui devrait être là.
Elle a décidé de ne pas y aller, gros appui.
On se demandait si tu, parce que il connaît tellement le rouage politique... qui se sont dit qu'il faut aller fort pour faire passer le parti?
D'abord, il faut dire Marois Risky, elle s'est déjà présentée pour le Parti libéral du Canada.
Mm-hmm.
C'est une des personnes les plus à gauche de sa formation politique du Parti libéral du Québec. Des fois, tu sais, je l'écoute poser des questions puis faire certaines sorties, puis elle n'est pas loin, tu sais, elle aurait pu être chez Québec solidaire, là, tu sais, elle n'est pas loin, là. Donc, je ne suis pas super étonnée qu'elle aille vers un Pablo Rodriguez, elle est proche des idées du Parti libéral du Canada. Quand on regarde un peu les appuis de Rodriguez, on est beaucoup dans les députés montréalais style Château-Fort.
Exact.
Tu sais, des Elizabeth Press, des Brigitte Garceau. On est dans des comtés très anglophones aussi. Donc, tu sais, le Parti libéral du Québec est dans un servicieux depuis plusieurs années. C'est un parti qui se montréalise de plus en plus, qui a une déconnexion complète avec l'électorat francophone et les régions. Donc, Pablo Rodriguez, c'est pas vrai que c'est le candidat qui va aller chercher les régions. On va dire les vraies affaires. Un Charles Millière ou un Carl Blackburn a plus d'écho là, dans les régions qu'un Pablo Rodriguez. Puis les appuis des députés, je trouve qu'ils viennent bien illustrer ça.
Effectivement, effectivement. Qu'est-ce que ça prend pour plaire aux régions quand on est un chef de parti?
Bien, deux choses. La première, c'est vraiment un message spécifique sur les régions. On s'en rend pas toujours compte. Québec, on est un centre urbain, mais Montréal nous considère comme une région, au cas où vous le sauriez pas. Là, je vous annonce qu'on est une région dans leur tête. Mais quand on va en région, on a un sentiment, les gens en région ont un sentiment d'être laissés pour compte. Que tout est très, très centré sur Montréal, puis sur quelques centres urbains. Donc, quand on n'a pas de message spécifique aux régions, qu'on n'a pas démontré qu'on est allé, qu'on connaît les spécificités de chaque région, déjà, ça part très, très mal. Et il y a plusieurs politiciens qui s'en rendent même pas compte. Donc, tu sais, des fois, vous allez voir des annonces comme « Moi, je m'engage à faire un sommet dans chacune des régions. » Puis ça, tu sais, encore des sommets, des affaires. Pour certaines régions, c'est hyper important. Puis je pense que la deuxième chose, puis c'est vraiment spécifique au Parti libéral, c'est certains enjeux sur lesquels il y a vraiment une fracture énorme entre Montréal puis les régions. Je pense notamment langue française, laïcité, immigration. Et j'ai l'impression que dans plusieurs régions, on voit Montréal comme si on nous regardait de haut, comme si on nous faisait la morale, comme si c'était des sujets qu'on peut pas aborder, qui sont sales. On le sent qu'il y a vraiment une fracture énorme. Et quand on regarde la carte électorale, on voit que Montréal est très rouge et orange, donc Québec solidaire libéral, et le reste du Québec est très bleu. Donc, il y a quelque chose là d'important, puis le Parti libéral du Québec a de la difficulté à faire des ponts sur ces enjeux-là. Les positions qu'ils ont prises sur la langue française, notamment, encore, je voyais les candidats, ils disent tout que la loi 96, c'est une horreur, là, puis que ça n'a pas de bon sens, puis ça faisait des tweets en anglais en fin de semaine pour en parler. Ben, c'est sûr que moi, j'ai l'impression, c'est sûr qu'ils faisaient un débat en anglais dans le West Island en fin de semaine. Ouais. C'est tentant de faire ça. Mais quand tu fais ça, c'est sûr, tu t'aliènes pas mal de monde, ouais, dans les régions.
Tu te nuis à toi-même. Puis en même temps, tu sais, moi, j'ai habité en Beauce une bonne partie de ma vie. Puis à chaque fois qu'il y avait un politicien du provincial ou du fédéral, c'était un peu moins vrai quand Maxime Bernier était là, mais j'ai l'impression que les Beaucerons se voient un peu plus comme un pays, ouais, parce qu'on s'est tellement jamais occupé d'eux autres qu'eux autres se sont dit, vous vous occupez pas de nous autres, on va s'occuper nous-mêmes de nous autres, que ça doit être difficile pour un chef de parti de se faire accepter par les Beaucerons. Puis il y a plein d'autres, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est aussi la même maudite affaire. Là. C'est, les gouvernements s'en mêlaient pas en se disant « Bon, nous, on va se concentrer sur Montréal, sur les grosses villes, puis ailleurs, bon, on va laisser ça de côté. »
Ça a créé de la frustration, ce qu'on a vu dans le Nord, ça, entre autres, certains personnages.
Ouais,
de
ça a créé de la frustration,
autres,
mais ça a amené de l'autonomie aussi.
Ouais, absolument. Ouais. Puis je pense que ces régions-là qui se sont prises en main n'ont pas envie de se faire dire « Moi, je vais être là pour vous. »
Exact.
Non, puis ils ont tout envie d'aller faire branle-bas de combat dans ce qu'ils ont monté.
Non, exact. Ils ont plutôt envie qu'on dise « Moi, je suis allé en Beauce, puis il y a tellement des bonnes pratiques ici que je veux en parler. »
Vous allez servir d'exemple.
Exactement.
Mmh. Antonine Iacarini, as-tu une grosse journée aujourd'hui?
Pas si pire, pas si pire.
Ben, tu vas-tu faire tomber ma télé à soir?
Pas ce soir, non.
Pas ce soir. Ça sera peut-être demain, 12h59. Un gros merci, Antonine.
Bye.
Bye-bye.